is a culture of eating outside, drinking outside, hanging out outside. Always like a party going on.
Alors, qu'est-ce qu'on entend, cette Catherine?
C'est la bande-annonce, en fait, de Cuisine de rue sur Netflix, okay. Qui est une série, en fait, qui est arrivée il y a quelques semaines, mais c'est la série en fin de semaine pour vous donner le goût de manger. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est un avertissement. Quand vous allez commencer la série...
vous allez avoir faim.
Vous allez avoir faim. Alors...
la face dans le frigidaire.
la face dans le buffet, autre chose. C'est des créateurs de Chef Tables, qui est aussi une série populaire sur Netflix, sur les grands chefs du monde. Mais là, cette fois-ci, on propose, en fait, les meilleurs endroits de cuisine de rue en Asie, qui est partout. D'ailleurs, et là, je ne parle pas de food truck comme on a ici. Au contraire, des petits bubuis, souvent une ou deux tables, un petit kiosque sur le bord du trottoir avec des mets typiques du pays. Parce que pour connaître un endroit, je pense qu'il n'y a pas mieux que justement d'aller à la rencontre de ces gens, à la rencontre de ces cuisines de rue.
Et souvent, en Asie, on ne sait pas ce qu'on mange, mais on le mange pareil.
Oui, mais c'est justement mais c'est la beauté de la chose. Il faut être ouvert, justement.
Oui, 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 tout à fait.
Et là, on se promène au Japon, en Inde, en Corée du Sud, Singapour, Philippines. Et chaque endroit est unique par l'esprit des gens, les plats. Mais il y a une chose qui revient toujours, c'est la relation justement avec l'aliment, le respect du produit, l'amour de la table et les immenses sacrifices de ces personnes. C'est pas une enfilade de recettes, je vous le dis tout de suite, il y en a pas de recettes, c'est même mettez trois crevettes avec un petit peu de coriandre, on n'est pas là-dedans du tout, ou plutôt on rencontre les personnes qui ont passé leur vie à préparer, à peaufiner leurs recettes, souvent même à se battre avec l'administration pour avoir leur coin de rue, parce que c'est de plus en plus difficile justement pour rester en place. Des histoires de vie fascinantes comme à Bangkok, c'est dans le premier épisode. En Thaïlande, on rencontre la propriétaire d'un petit restaurant, J-Fi, qui est le premier restaurant de rue Thaïlande à avoir été étoilé Michelin. Et c'est une femme, la chef, qui s'appelle Supinya Junsuta, qui a 74 ans. Elle est toujours devant ses woks, devant ses feux, à faire les mêmes mouvements, toujours, parce que là, évidemment, il y a, les gens s'en sont parlé. Il y a des gens de partout à travers le monde qui décident d'aller à son petit resto. Elle fait, semble-t-il, les meilleures soupes Tom Yum et aussi les omelettes de crabe.
Est-ce qu'on parle de Bruno Blanchette?
Non, pas Bruno Blanchette.
Parce qu'il y a un restaurant en Thaïlande, espèce de boui-boui où il sert de la poutine.
Exact, oui, mais on n'en parle pas de lui. On va aussi au Japon, à Osaka, avec le super sympathique Toyo, qui lui était orphelin. Donc, il a sorti de la misère, justement, en commençant tranquillement. Et lui, son rêve, c'était justement d'avoir un restaurant avec quelques tables. Et son plaisir dans la vie, oui, c'est de faire à manger, mais c'est de faire rire les gens. Donc, c'est un bout en train. Alors, c'est ça que vous allez voir, toujours avec, bien sûr, des images magnifiques et appétissantes. Un beau voyage culinaire, Cuisine de rue sur Netflix.
Et la vérité sur l'affaire Harry Keber ou Keber, je ne sais pas comment...
Keber sur tout.tv. Je propose d'écouter l'extrait de la bande-annonce.
L'écrivain, c'est ça?
Oui.
Dites-moi quelque chose de gentil.
Que l'auteur Harry Keber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété.
Alors, c'est tiré du livre à succès de Joël Dicker qui a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Le tournage a été fait au Québec, à Montréal, mais aussi à Forestville sur la Côte-Nord. Donc, quand vous voyez les grandes plages, la mer, les belles maisons de l'auteur, ben c'est chez nous. C'est magnifique. On connaît l'histoire. Harry Keber qui est accusé du meurtre de Nola. C'est une magnifique jeune femme avec qui il a entretenu une relation il y a une trentaine d'années. Et il y a un de ses anciens étudiants, Marcus, qui est devenu une vedette un peu là, avec son premier livre, qui ne croit pas aux accusations d'Harry Keber. Il va tout quitter pour pouvoir prouver l'innocence de son mentor. Et là, on n'est pas devant une grande série. Je vous le dis tout de suite, avec des moyens faramineux, on n'est pas dans une série de Netflix. On voit très, très vite les limites de la réalisation de Jean-Jacques Haneau. C'est un petit peu simpliste, mais ça reste tellement une bonne histoire, celle de Joël Dicker, qu'on se prend embarquer dans ce mélange d'enquête, d'histoire d'amour, de rebondissement. Et c'est avec Patrick Dempsey qui, justement, personnifie Harry Keber et s'est présenté en rafale, donc sur tout.tv cette fin de semaine.
Et c'est la dernière de Games of Thrones.
Ouais. Dimanche sur HBO. Dernier épisode de Game of Thrones. Ce qui va clore la série qui n'a pas fait l'unanimité, je dois dire, dans les épisodes. Il y a même une pétition en ligne de plus de 757 000 signatures au moment où on se parle parce qu'on demande à HBO de refaire, de réécrire la huitième saison. On dit que le scénario est bâclé, des liens faciles. Mais il reste que la série a marqué la télé comme on la connaît maintenant, avec des épisodes en longueur, des épisodes également où on peut voir des scènes complètement extraordinaires. Moi, j'ai pas été une fan de Game of Thrones. Je sais que Marc et Esther le sont. On pourra s'en reparler d'ailleurs mardi matin après justement cette grande dernière. Et il y a un documentaire également qui sera présenté la semaine prochaine à HBO justement sur les coulisses de cette dernière saison. Alors, j'ai l'impression que dimanche soir, il y a bien des gens qui sont devant leur écran pour Game of Thrones.
Merci, Catherine.